Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement réjoui d'être au milieu de vous ce matin. Et d'autant plus qu'aujourd'hui est un jour solennel. Aujourd'hui, je vais vraiment devenir votre pasteur. Jusqu'à aujourd'hui, c'était un peu, il y avait un peu de doute, quoi. Est-ce que oui ou non ? À partir d'aujourd'hui, l'union sera faite. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à mes amis, alors qu'ils se sont assis plutôt en arrière de la salle. J'espère pas que ça veut dire que mes amis sont des mauvais élèves, mais je vous souhaite vraiment la bienvenue. Soyez accueillis ici à Villard. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'union à Christ. Pour le dire dans des termes un peu plus modernes, notre relation à Jésus. Comment ma relation avec Jésus se construit? Quelle en est la base? Et qu'est-ce qu'elle doit produire, cette relation? Et je vais le dire tout de suite, ce sujet peut paraître très abstrait. Ou plutôt, on le considère en entrée de jeu comme un sujet abstrait. Mais je vais vous accompagner, nous allons faire une petite route ensemble et vous verrez qu'il n'est pas si abstrait que ça. L'amour de Dieu n'est pas abstrait. Nous lisons en Jean 15 les versets 1 à 17. Donc c'est pendant les discours d'adieu de Jésus à la fin de l'évangile de Jean. « C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » J'ai toujours voulu prêcher sur ce passage. D'ailleurs, j'ai déjà prêché une fois sur ce passage, plutôt sur la fin. Le titre de ma prédication, c'était « Pourquoi Dieu n'est pas ton ami ?» Alors, ça va pas être le sujet de ma prédication ce matin, mais à chaque fois que je relis ce texte, je suis interpellé. Et c'est d'ailleurs le texte qu'on avait pris l'année passée, quand on avait fait le forum chrétien roman. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'était ? Alors, c'était une rencontre œcuménique à Lézin, où toutes les églises de Suisse romande étaient représentées. Et on avait, tout au long de la semaine, médité sur ce passage. Et comme je l'ai dit en introduction, ce passage parle de la façon dont Christ nous a aimés, de notre réponse, de la manière dont nous aimons Christ en retour. Et donc, ce passage parle de comment nous sommes unis à notre Seigneur. Et le tout premier point qu'il aborde, ici, il prend une métaphore, celle de la vigne. Jésus, en enseignant, explique que lui-même est le cep, que Dieu le Père est le vigneron, et que nous, nous sommes les sarments. Alors, on peut tirer tout plein de conséquences de ce passage. Il y a une grande question par rapport aux feuilles qui sont retranchées, par rapport aux feuilles qui sont coupées, aux branches qui sont coupées. Qu'est-ce que c'est que ces branches qui sont coupées? Comment comprendre? Je crois que on va pas s'attarder à ce détail, mais on va plutôt voir que l'image, la métaphore de la vigne est très présente dans l'Ancien Testament. En fait, quand on prend les livres prophétiques, Ésaïe, Osée, Ézéchiel, cette métaphore de la vigne est employée, mais elle est employée pour parler d'Israël. Et c'est généralement en relation avec une notion de jugement, où la vigne va être taillée ou même arrachée. Ici, Jésus reprend cette métaphore, mais il la transforme. Ce n'est plus Israël qui est la vigne, mais c'est Jésus lui-même qui est la vigne. Il est le cep. Et donc, tout d'abord, cet avertissement, l'avertissement qui est adressé dans l'Ancien Testament, ne s'adresse plus directement à la vigne, vu que notre Seigneur, qui est le cep, ne va quand même pas être arraché. Mais il s'adresse à nous, les sarments. Et ce premier encouragement qui nous est adressé, c'est de comprendre qu'à partir de maintenant, à partir du moment où Jésus est venu, c'est Jésus qui est notre source de vie. C'est de Jésus dont nous tirons l'énergie, la force, l'amour pour œuvrer pour Dieu. C'est par Jésus que nous pouvons rendre gloire à Dieu, et c'est par Jésus que nous pouvons nous adresser à Dieu. En somme, le point qui est fait ici avec cette métaphore, c'est que c'est Jésus qui devient le médiateur entre nous et Dieu. C'est comme si, et on le voit tout au long de l'évangile de Jean, par exemple, il parle de la porte. Jésus est la porte. Et cette notion de médiateur est bien imagée par cette image de la porte. Le médiateur, c'est celui par qui l'information, les choses passent. Et donc, lorsqu'on dit que Jésus est notre médiateur, c'est que notre relation à Dieu passe exclusivement par Jésus. Et donc, c'est ce premier élément que je vais mettre en avant. À partir du moment où Jésus est venu, Jésus a pris l'exclusivité de la relation à Dieu. Dans le sens où Jésus est devenu le seul moyen pour aller à Dieu. Et d'ailleurs, vous remarquerez que au chapitre précédent, il y a ce fameux verset qui dit où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans ses discours d'adieu, Jésus se met pleinement, parfaitement et complètement en avant. Jésus est le seul par qui nous pouvons nous tourner vers Dieu. Mais le texte ne s'arrête pas là. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » J'ai été frappé, en étudiant un peu ce passage, du nombre de fois, à partir du chapitre 14, où le terme « demeurer » apparaît. J'ai presque envie de dire, c'est presque comme si on était un peu des demeurés, quoi. Excusez-moi, c'était un peu... Surtout moi avec mes blagues, vous savez. Non, je me suis amusé à réfléchir sur ce terme de demeure. Et il m'a vite frappé. Tout d'abord, une demeure, c'est une résidence, une maison, un lieu d'habitation. Et en Jean 14, 2, c'est bien dans ce sens-là que ce terme est employé lorsque Jésus dit « Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. » Alors ici, le terme « demeure », c'est « moné », à distinguer du verbe, de la même racine, « meno ». Je faisais la blague avec mon copain ce matin, je disais à mon prof de grec, je lui ai dit « Ouais, on change le E et le O. C'est un eta et c'est un omicron, c'est pas un E. » Mais voilà, on a ce terme qui apparaît là. Ensuite, en Jean 14, 17, il nous est dit que l'Esprit demeure en vous. Donc là, c'est l'Esprit qui demeure en nous. Au verset 23, on a la nouvelle apparition du nom, et il est dit « Nous établirons domicile chez toi ». En traduisant littéralement, c'est « Nous ferons demeure chez lui ». Cette promesse de Dieu de venir faire demeure chez nous. Ensuite, bien entendu, il y a dans notre chapitre le texte que je viens de dire de « demeurez en moi et je demeurerai en vous » et le fameux « demeurez dans mon amour ». J'ai trouvé intéressant de voir toutes ces notions. Et même nous, en français, comme j'ai commencé à le dire, la demeure peut être une habitation, un logement. Généralement, c'est pas le petit appartement 4 pièces et demie, quoi. Voilà, la demeure, c'est quelque chose un peu d'imposant, avec des pierres, quelque chose qui dure dans le temps. Mais ça peut aussi être, demeure, ça peut aussi être une conjugaison du verbe demeurer, qui signifie rester. Quelque chose qui reste, qui se conserve, qui se garde, qui se transmet. On a aussi plusieurs expressions ou allocutions avec le terme demeurer. On a d'ailleurs, on peut être mis en demeure. Ici, la demeure, ça veut dire retard. C'est-à-dire qu'on est mis au retard et on doit s'exécuter, généralement quand on a une créance auprès d'un créancier. Il peut y avoir péril dans la demeure ou il peut ne pas y avoir péril dans la demeure. Pour revenir à notre texte, et pour voir un peu comment ce terme est utilisé dans la Bible, je dirais que le terme « demeure », c'est le propre du divin. « Demeurer », c'est le propre de Dieu. Le propre de notre vie, le propre de ce qui est terrestre, de ce qui est charnel, c'est d'être périssable, de pourrir, de passer, d'être périmé. Le propre de Dieu, c'est de demeurer. Et d'ailleurs, c'est intéressant lorsqu'on lit en Genèse 6, les versets 3. Mon esprit, mon souffle ne demeurera pas toujours dans l'homme. Et on est placé ici face à une des conséquences de la chute, à une des conséquences de notre faute, de notre rébellion face à Dieu. La conséquence, c'est que l'Esprit de Dieu ne demeurera pas toujours en nous. Ici, ce texte parle de la mort. Mais j'ai trouvé frappant de voir que si on prend cette logique, c'est qu'au départ, au moment de notre création, Dieu nous a créés pour demeurer, non pas pour être demeuré, mais pour demeurer. Et c'est à cause de notre faute que nous sommes devenus périssables. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle qui a secoué le monde, en particulier la Grande-Bretagne cette semaine. Exactement. Est-ce que vous avez vu, il y a, je saurais dire dans quelle région d'Angleterre, c'est plutôt au nord, le long du mur d'Adrien, qui avait été construit pour délimiter l'Empire romain, il y avait cet arbre qui avait été élu plus bel arbre 2017 de Grande-Bretagne. Et en fait, si vous voyez des photos, c'était un bel arbre au milieu de deux petites collines avec les restes du mur d'Adrien devant. Et cet arbre avait plus de 200 ans. Et il semblerait que soit c'est un jeune de 16 ans, ils ont, je crois que la police, j'ai appris ce matin, a arrêté un sexagénaire. Ils sont en train de mener, des recherches. Mais la découpe de cet arbre a créé un séisme. Et je me suis intéressé un peu à ces arbres qui sont âgés. Et est-ce que vous saviez qu'il y a dans notre canton un registre des vieux arbres? Il y a un registre et même il y a une liste des arbres les plus vieux. Alors on en a quelques-uns par ici à Lausanne. Et tout en méditant là-dessus, j'ai été frappé de constater à quel point on était fasciné par ce qui était ancien, par ce qui demeurait. Ce qui est fascinant dans ces arbres, c'est pas l'arbre, parce que voilà, il y en a plein d'arbres sur Terre. Il y en a des plus grands, plus beaux. Mais ce qui nous fascine, c'est de voir cette plante qui demeure, qui subsiste depuis plus de 200 ans et qui survit à l'être humain. Un arbre peut être moins périssable qu'un être humain. C'est la même chose quand je vous avais dit que j'aimais bien, moi, la pierre dans les constructions, parce que la pierre, ça reste. Je crois que dans notre cœur, il y a une forme de fascination par ce qui demeure, par ce qui reste. On n'aime pas les choses qui sont périssables, les choses qui se cassent vite. Et il en est de même ici pour notre relation avec Dieu. Lorsque Dieu, lorsque Jésus nous dit « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous », il parle ici d'une relation qui est longue, d'une relation qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Jésus nous appelle à demeurer dans son amour. Demeurer dans mon amour. Et vous verrez, c'est très intéressant. Mon amour peut soit être subjectif ou objectif. C'est-à-dire, soit ça peut être demeurer dans l'amour que j'ai pour Dieu, pour Jésus, ou demeurer dans l'amour que Jésus a pour moi. Les deux compréhensions sont possibles. Et je crois que c'est typiquement le genre de lieu où c'est nécessaire de laisser les deux compréhensions possibles. Parce que Jésus parle des deux. Et il va plus loin dans le texte, Jésus prend l'image de l'amitié. Jésus dit, vous êtes mes amis. Et moi, j'ai toujours été frappé par cette phrase. Comment Jésus peut-il s'approcher de nous? Comment Dieu peut-il dire, vous êtes mes amis? Je crois que c'est quelque chose qui devra nous sidérer. Et en même temps, je trouve que l'amitié de Jésus est quand même un peu particulière. Elle est quand même un peu particulière. Alors, elle ressemble un peu à la mienne. Comme vous avez vu, j'ai 2-3 amis qui sont venus ce matin. Et s'ils sont venus, c'est parce que je leur ai dit la même chose que Jésus a dit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, je vous commande de venir. Et donc, comme c'est mes amis, ils viennent. Non, moi, je trouve totalement paradoxal cette phrase. Une fois, c'était pendant le forum chrétien, on faisait la méditation, puis je me suis arrêté, j'ai dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je me suis dit, mais, wow, ça c'est sympathique ça. Ça c'est vraiment le mode d'emploi sur comment créer des bons liens d'amitié. Comment tisser de bons liens d'amitié. Et en même temps, je crois que cet élément est essentiel. L'amour obéit. Je vais le répéter parce que je pense que c'est un point central. L'amour obéit. Et non seulement il obéit, mais ici l'amour est un commandement. Et c'est pas la seule fois dans la Bible. Et je crois que je vous l'ai déjà dit. Quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres, il dit pas lorsque les conditions sont favorables et que la météo est bonne et qu'il y a une bonne petite musique en fond, alors là vous pouvez vous aimer. Non, il donne un ordre. Il dit maintenant vous vous aimez les uns les autres. Alors je vais pas être trop complexe, mais j'ai été frappé par cette relation entre l'amour et le commandement. Et celui que je trouve qui en parle assez bien, c'est Paul Ricoeur. Il écrit un petit livre sur amour et justice. Et il explique en quoi l'amour est un lien avec le commandement. Il dit « L'amour est objet et sujet du commandement. » Vous vous souvenez de ce que j'ai dit avant sur objet-sujet ? « L'amour est objet et sujet du commandement » ou, en d'autres termes, « L'amour est un commandement qui contient les conditions de sa propre obéissance. » L'amour est un commandement qui contient les propres conditions de son obéissance, ou les conditions de sa propre obéissance. En gros, c'est assez compliqué pour dire « lorsque j'aime, je ne compte pas ». Ou pour dire plutôt, ici, « lorsque Christ me donne cet ordre « demeurer dans mon amour », c'est un peu ce cri que donne l'époux à l'épouse en disant « aime-moi ». sous la forme d'un ordre, et en disant « demeurez dans mon amour », c'est tout d'abord un message de l'amour de la part de Jésus. En disant « demeurez dans mon amour », Jésus nous dit « je t'aime ». Et parce que je reçois cet amour, alors forcément j'aime en retour. Et comme le commandement d'aimer se réalise en aimant, lorsque je reçois cet amour et j'aime, forcément, je réalise ce commandement. Ou pour le dire, peut-être dans des termes un peu moins compliqués, l'amour réalise l'amour. En quelque sorte, l'amour est un peu, on pourrait dire, immanent. C'est-à-dire que lorsque j'aime, j'aime. Et je peux pas vouloir aimer. Enfin oui, je peux, mais c'est pas de l'amour. Voilà. Ensuite, l'amitié avec Jésus est différente. Un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ici, Jésus met l'accent pour montrer la différence entre l'esclave et l'ami. Et il dit, l'ami sait ce que fait le maître, connaît, alors que l'esclave, il ne sait pas. Il ne fait que agir. Et donc, l'amour se révèle. L'amour ne peut pas rester caché. Et ici, l'amour se révèle en Jésus-Christ. Lorsque j'ai compris pourquoi Jésus est venu et qu'est-ce qu'il est venu accomplir dans ma vie, j'aime Jésus, lorsque je l'ai compris. Et donc, de facto, je ne suis plus esclave, mais ami. Ce n'est pas vous qui, et troisièmement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Troisième élément, l'amitié, l'amour est sélectif. L'amour choisit. Et j'irais même un poil plus loin, je dirais que l'amour anticipe. L'amour anticipe, l'amour veut prendre les devants. Et c'est bien pour ça que Jésus a pris les devants pour nous. Et donc, on arrive gentiment à la conclusion. Gentiment, hein. Et j'aimerais revenir sur un élément dont que j'ai peut-être évoqué au passage. C'est cette notion de portée du fruit. Et un fruit qui demeure. Et c'est avec ça que j'aimerais vous laisser. Le propre de la venue de Jésus, le propre de cette relation, le propre de cette union avec Christ, c'est de porter du fruit dans nos vies. Et j'aimerais dire tout de suite, ici dans le texte, porter du fruit, ça ne veut pas dire évangéliser. Ici, il ne parle pas de moissonner la récolte. Ici, il ne dit pas de faire trembler des montagnes. Non. La moisson, ou plutôt le fruit qui est attendu de ses disciples par Jésus, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Le propre de notre union à Christ, c'est de produire cet amour mutuel les uns pour les autres. De cet amour qui découle de notre attachement au Christ. Et je trouve assez intéressant de parler d'un fruit qui demeure. On fait des petites purées là pour Grégoire. Alors ma femme me couperait, elle me dirait avec les fruits, c'est pas une purée, c'est une compote. Ok. On fait aussi des compotes. Et les compotes de bananes, on avait des bananes qu'on n'a pas réussi à faire toutes manger à Grégoire. Et l'autre jour, je me suis approché près du panier de fruits là. Et j'ai touché la banane, et il y a vraiment un essaim de ces petits moucherons qui est sorti de cette banane. Je me suis dit, bon, c'est le moment de l'acheter, là. Mais, le propre d'un fruit, c'est de pourrir. Ou de sécher. Et ici, Jésus parle d'un fruit qui demeure. Et je crois que ce message de ce fruit qui demeure, de cet amour mutuel qui survit, et plus qui survit, qui ne change pas, c'est un message d'espérance pour nous. Un message d'espérance dans toutes nos relations. Et en particulier celles que nous avons avec Dieu. Parce que nous pouvons avoir la certitude que ce fruit-là, que cette relation avec Christ ne pourrit pas, mais qu'au contraire, elle demeure. Et que ce fruit qui nous est donné, peut aussi faire revivre des relations mutuelles, des relations les uns avec les autres. Dieu peut faire revivre des relations qui ont été brisées. Dieu peut restaurer le lien. Et je crois que ça, c'est important et absolument nécessaire de recevoir. Et que ce lien qui peut être rétabli n'est pas uniquement un conseil, mais c'est un commandement. Et je vais le répéter, c'est un commandement auto-réalisateur. Lorsque je commande l'amour, ce commandement s'auto-réalise. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, on veut tourner les regards vers toi. On veut tourner les regards vers toi parce que tu es celui qui a produit la foi en nous, tu es celui qui nous a choisis, tu es celui qui est venu à notre rencontre, tu es celui qui t'est donné et celui qui est ressuscité. Et je veux te prier, je veux crier à toi, viens faire ta demeure en nous, Seigneur. Viens faire demeure en moi. Viens faire demeure au milieu de notre communauté. Seigneur, que dans tout ce que nous vivions, tu sois celui qui habite, qui soit au centre. Seigneur, j'aimerais t'invoquer dans nos relations, t'invoquer dans nos joies, mais également dans nos peines, dans nos souffrances, dans nos tristesses. Sois celui qui habite toute chose. Et Seigneur, je me réjouis d'habiter cette belle demeure que tu es en train de préparer. Mais pas tout de suite, j'ai encore deux, trois choses à faire. Amen.